Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, un échange de tirs entre Israël et le Hezbollah. Ce soir, le calme est de retour, mais ces tensions font craindre une escalade entre l'État hébreu et le mouvement chiite.
En Allemagne, la poussée de l'extrême droite, deux élections avaient lieu aujourd'hui dans des régions de l'Est du pays, et l'AFD fait plus que doubler son score.
Enfin, le pape François va nommer le mois prochain 10 nouveaux cardinaux, et parmi eux, il y a l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Abongo.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
La crainte d'une escalade des tensions entre Israël et le Liban.
Oui, depuis la semaine dernière, le Hezbollah libanais promettait une riposte après une attaque de drones attribuée à Israël et qui s'était produite le week-end dernier. Le mouvement chiite est donc passé des paroles aux actes, puisqu'aujourd'hui, il a tiré plusieurs missiles vers Israël. Il n'y a pas eu de victimes, mais il y a eu des dégâts. Et surtout, Israël a répondu en menant des bombardements. On fait le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui, justement, entre Israël et le Liban, avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Ralifé.
Au moins un missile anti-char a été tiré dimanche après-midi par des combattants du Hezbollah contre des véhicules militaires israéliens près du village d'Avivim, qui fait face au secteur central du Liban Sud. L'attaque a été lancée à partir d'une région située à la frontière libano-israélienne, dans la zone d'action de la Force des Nations Unies, déployée après la guerre de 2006 pour surveiller l'arrêt des hostilités entre le Hezbollah et Israël. L'armée israélienne a riposté à l'attaque par un tir d'artillerie. Selon l'armée libanaise, plus de 40 roquettes et grenades incendiaires ont été lancées par les Israéliens autour de trois localités, provoquant des incendies dans les champs et les vergers. C'est la première fois depuis 2006 que l'armée israélienne pilonne le territoire libanais. Les responsables libanais ont rapidement réagi pour éviter une escalade d'envergure à la frontière méridionale. Le premier ministre Saad Hariri est entré en contact avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et avec l'ambassadeur Emmanuel Bonn, conseiller du président Emmanuel Macron, pour demander leur intervention afin d'éviter l'escalade. Les casques bleus ont aussi renforcé leur présence à la frontière entre les deux pays. Le commandement de la Force des Nations Unies a intensifié ses contacts avec les parties libanaises et israéliennes pour désamorcer la situation et rétablir le calme. Paul Khalife, Beyrouth.
Et puis également concernant Israël, le Premier ministre éthiopien se trouve actuellement à Jérusalem.
Oui, c'était la première journée du déplacement d'Abiy Ahmed aujourd'hui. Et comme le veut la tradition, lors de ce type de déplacement, il a commencé par effectuer une visite au mémorial de Yad Vashem, qui est un mémorial de la Shoah à Jérusalem. Et puis ensuite, le Premier ministre d'Éthiopie a parlé économie et précisément cybersécurité, c'est la sécurité via Internet, compte rendu de cette visite Michel Paul à Jérusalem.
Le but déclaré de la visite du Premier ministre éthiopien en Israël est d'obtenir l'élargissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Abiy Ahmed rencontre également des hommes d'affaires israéliens désireux d'investir en Éthiopie, notamment dans les domaines de l'agriculture et des télécommunications. C'est en fait une déclaration d'intention qui a été signée à Jérusalem. Les deux pays s'engagent à renforcer les liens économiques qui les unissent, une coopération qui va au-delà des relations entre nos deux pays, affirme le Premier ministre éthiopien.
Je voudrais souligner que la coopération entre l'Éthiopie et Israël n'est pas limitée à la scène bilatérale. Elle s'étend également à des affaires régionales et internationales. Je peux vous assurer que l'Éthiopie va toujours œuvrer pour un partenariat dynamique et efficace pour la promotion de la paix et de la sécurité régionale et globale.
Abiy Ahmed s'est intéressé également de près à la situation de la communauté juive éthiopienne, dont il a rencontré plusieurs membres, et il a qualifié d'incident tragique la mort de Salomon Tika, un jeune juif éthiopien tué par un policier il y a tout juste 2 mois, un événement qui avait donné lieu à de violentes manifestations de la communauté éthiopienne en Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et dans le même sens que son homologue éthiopien, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a appelé à renforcer la coopération sécuritaire avec l'Éthiopie. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel de son bureau qui a été publié ce soir.
Dans l'actualité internationale de ce dimanche soir, les Bahamas qui ont commencé à être frappés par l'ouragan Dorian.
Oui, cet ouragan est annoncé comme le plus puissant de l'histoire des Bahamas. Il est classé en catégorie 5, c'est la catégorie la plus élevée. Les vents peuvent atteindre les 300 km/h. On parle de pluies torrentielles. Ce sont des pluies qui créent un véritable torrent. Voilà pourquoi on dit pluie torrentielle. La vigilance est maximale. Dans la journée, le Premier ministre a lancé un appel à la population pour qu'elle se mette à l'abri le plus rapidement possible. Et après les Bahamas, c'est la côte est des États-Unis qui devrait être touchée par Dorian. Les États menacés sont la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et l'Alabama.
Et dans ce journal en français facile, on va aussi en Allemagne. Comme annoncé, l'extrême droite fait une poussée importante lors des deux élections régionales ce dimanche.
Oui, des élections dans deux Länder. Les Länder, ce sont les régions allemandes. Il s'agit de la Saxe et de Brandebourg, tous deux situés dans l'est de l'Allemagne et où les parlements régionaux étaient élus ce dimanche. Alors les observateurs, effectivement, annonçaient une augmentation du score de l'AFD, qui est le parti de l'extrême droite. Cela s'est vérifié. L'AFD a plus que doublé son score qui avait été réalisé en 2014 lors des précédents scrutins. C'est ce qui ressort en tout cas des premières estimations. Correspondance en Allemagne de Pascal Thibault.
L'AFD est la grande gagnante de ces deux scrutins. L'Alternative pour l'Allemagne multiplie son score de 2014 par 3 en Saxe et par 2 dans le Brandebourg. Le parti d'extrême droite, malgré ce succès indéniable, échoue toutefois à s'imposer comme la première force dans ces deux régions, ce qui aurait constitué une humiliation pour les autres partis. La participation sensiblement plus élevée qu'il y a 5 ans, en raison de scrutins très polarisés par ce succès attendu de l'AFD, a profité visiblement à ce mouvement, comme à ceux qui gèrent ces régions, la CDU en Saxe et le SPD dans le Brandebourg. Ces partis subissent un recul, mais améliorent leur score par rapport au sondage d'il y a quelques semaines. La pilule est amère, mais elle l'aurait pu l'être encore plus. Les plus petits partis ont souffert de cette course en tête, comme le parti de gauche Die Linke, qui perd son rôle traditionnel de défenseur des Allemands de l'Est au profit de l'AFD. Les Verts progressent, mais moins que ce que les sondages leur permettaient d'espérer. Pour la grande coalition au pouvoir à Berlin, la soirée est mitigée. CDU et SPD reculent, mais limitent la casse, et pourront conserver avec des coalitions plus larges leurs fiefs respectifs. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Afrique, le déplacement ce dimanche du secrétaire général de l'ONU dans l'un des épicentres, le cœur donc de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
Oui, Antonio Guterres était à Mangina, c'est une ville qui est située à 30 km de Beni, dans l'est de la RDC. Il a visité un centre de traitement Ebola et de là, il a lancé un appel, il faut faire plus, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Il demande davantage de coopération entre la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en RDC, et les forces armées du pays.
Et puis le pape François crée la surprise au Vatican.
Oui, ce dimanche, après la prière de l'Angélus, qui est la traditionnelle prière hebdomadaire au Vatican, le pape François a annoncé qu'il nommerait le mois prochain 10 nouveaux cardinaux. Les nominations auront lieu le 5 octobre prochain et ces futurs cardinaux viennent d'Afrique, d'Indonésie, de Cuba ou encore du Luxembourg. On voit cela dans le détail avec notre correspondant au Vatican, Eric Selanck.
Une des figures de cette liste annoncée par le pape est assurément celle de Mgr Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, qui, comme son prédécesseur Laurent Monsengwo, va revêtir la pourpre, signe de l'importance pour François de l'Église congolaise. L'Afrique qui sera doublement représentée au prochain consistoire, puisque l'archevêque de Rabat, Mgr Cristobal Lopez Romero, sera lui aussi créé cardinal. C'est lui qui avait accueilli le pape François en mars dernier lors de sa visite au Maroc, un archevêque fortement engagé dans l'accueil des migrants du sous-continent africain. Cette liste de futurs cardinaux envoie d'ailleurs un message d'une Église toujours prête à ouvrir ses portes. L'une des surprises est en effet la nomination comme cardinal de celui en charge des migrations au sein de la Curie, le jésuite Michael Czerny, sous-secrétaire de la section migrants du dicaster pour le service du développement humain intégral. Autre figure dans cette liste, celle de Mgr Jean-Claude Olrich, l'archevêque de Luxembourg, qui préside également les conférences épiscopales de l'Union européenne, un jésuite lui aussi, tout comme le pape argentin. Eric Sénanque, Rome, RFI.
Enfin en sport, le football actuellement, le dernier match comptant pour la 4e journée de Ligue 1.
Oui, Marseille accueille Saint-Etienne. À la mi-temps, le score était de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Un peu plus tôt dans la journée, Lille avait été battue par Reims 2-0. Autre résultat, le match nul de Monaco à Strasbourg, 2-2. Monaco qui n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 depuis le début de la saison. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile qui s'achève à présent. Il est 22h10 ici à Paris. Bonne soirée Sylvie.
Merci Romain, bonne soirée à vous également.
Bonne soirée à tous.